Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe. Patrick, médecin de campagne, entre deux visites au restaurant, journal de France 2, 13h. J'ai quitté le restaurant vers 13h20, 25. Toujours pas un mot sur l'assassinat de la journaliste russe. On se demande ce qu'ils foutent à France 2, franchement. C'est abominable. Je sais pas, il va falloir peut-être que... Je sais pas quoi faire. C'est hallucinant de voir des rédactions à ce point coupées, on dirait, de la réalité du monde. Voilà, c'était pour témoigner, quoi. Donc il faut peut-être faire des médias parallèles, sans doute. Salut, bon courage.
Merci à Daniel Mermet de nous avoir informé sur la Tchétchénie. Je me souviens de cette émission où vous étiez dans un tank, quelque chose comme ça, enfin un camion blindé. Et voilà, ceci à l'occasion de la mort d'une journaliste exemplaire. Et c'est la seule émission sur la Tchétchénie que j'ai pu entendre à la radio, à part quelques rares autres choses à France Culture. Mais voilà, merci à travailler des journalistes qui font ce qu'ils peuvent. Merci beaucoup, au revoir.
Oui, bonjour, méthode globale, méthode syllabique. Eh ben, ce matin, j'essaye de faire passer un message à monsieur le ministre de l'Éducation nationale et il se passe la même chose qu'il se passe normalement dans les classes. Les lignes sont encombrées. Comme les classes sont, entre guillemets, encombrées, comment voulez-vous qu'on ait le temps à se consacrer à l'apprentissage de la lecture à un élève en particulier et à 22 élèves en particulier, c'est-à-dire s'appliquer à ce qu'ils sachent lire et mettre en œuvre, surtout devant l'enseignant, une pratique de lecture quand ils sont 22, 29, même au CP, même avec une APSEM, avec en plus le fait que les gamins maintenant sont donc de plus en plus individualisés dans leur rythme de fonctionnement et que l'enseignement se trouve concurrencé un maximum par la sollicitation de visuels, télévision, Game Boy, etc. Donc, syllabique globale, pas d'absolu. Le premier absolu à régler, c'est le nombre d'enfants par classe au moment des apprentissages essentiels qui sont la lecture, les mathématiques et, on l'oublie un petit peu trop souvent, l'apprentissage des méthodes de travail. Voilà, au revoir.
Salut Daniel, c'est Pierre de l'Ardèche. Les postiers du centre courrier d'Annonay sont en colère. Les réorganisations se suivent et se ressemblent. La charge de travail augmente sans arrêt. Les usagers sont mal servis, le personnel est méprisé, trop c'est trop. À ce jour, 3 postiers ont entamé une grève de la faim. De nombreux autres sont en arrêt maladie. Il n'y en a qu'un qui est content, c'est notre directeur. Pour lui, c'est une simple épidémie de grippe qui va passer. Il fait lui aussi partie des fossoyeurs des services publics. Salut, merci pour tout.
Oui, bonjour, c'est un avis pour les auditeurs modestes et géniaux qui n'ont plus que iTunes pour recevoir l'émission. Ne chargez surtout pas la nouvelle version d'iTunes, elle est vérolée, elle ne marche pas, vous seriez privé de l'émission modeste et géniale. Salut à tous, c'est Pierre de Paris.
Je téléphone pour faire de la pub purement commerciale. La compagnie Herbe d'Or joue un spectacle qui s'appelle Résistance 1 Orphée. Ça va se passer jeudi 12 et vendredi 13 octobre à la salle de spectacle de Civray, dans le 86 à 21h. Et la semaine suivante, le 20 et 21 octobre, à Cap Sud à Poitiers, toujours dans la Vienne. C'est le premier épisode d'une série de 7 spectacles consacrés à la résistance tout au long du 20e siècle. Voilà, spectacle qui sans doute ne serait pas ce qu'il est sans toute une série d'émissions écoutées sur France Inter à l'époque où c'était pas entre 15 et 16. Voilà, donc ben merci à ceux qui pourraient venir et puis merci surtout à l'équipe de continuer à se bagarrer pour que ça existe tout ça. À bientôt.
Voilà, sur la route du retour de Kaboul, quelques messages entendus de loin. Merci pour ces messages. Et aujourd'hui, ben, un grand classique, on va revenir sur un grand classique de la base. J'y suis, une histoire de nez que certains d'entre vous connaissent déjà, mais que d'autres vont découvrir, puisque maintenant, vous le savez peut-être, vous allez le découvrir. En tout cas, la base du Suisse est à 15h. Voilà, ça vient juste après les messages que voici.
élection formidable dans un fauteuil, j'ai entendu ce matin, sur France Inter. Mais putain, mais France Inter, quand est-ce que les gens, ils analysent la situation? Attends, Juppé, il se fait élire 40%, avec 40%, il a 56% de 40% de votants. Ça fait quoi, ça? Attends, on multiplie par deux, et il tombe à 23%. Monsieur 20%, comme son prédécesseur illustre et ami Chirac. Enfin, prédécesseur par la mairie de Bordeaux, hein, mais bon, voilà. Monsieur 20%, qui gouverne la France. Mais il y en a ras-le-bol de ces connards-là. Les Bordelais, alors, ils ont pas été foutus d'aller se bouger le cul pour aller le virer? Non, non, mais c'est pas possible, ça. Et après, effectivement, ben, ça clique, et ses copains, ils peuvent mettre des étoiles jaunes aux gens. Ils auront les mains libres, ces mecs-là. Ils auront les mains libres, un jour.
Ouais, salut, c'est Eric du Gers. Mais voilà, c'était pour dire que par rapport à l'élection de Monsieur Juppé, 4 électeurs sur 10 donc ont été aux urnes. C'est peu, c'est très très peu. Je pense que pour être efficace, eh ben, il faut se déplacer, il faut y aller voter, il faut s'inscrire sur les listes, il faut aller voter. Il faut pas faire le jeu de ce genre de personnage. Il faut, lorsqu'on peut, faire barrage, aller voter. Donc voilà, c'était Eric, ciao.
Bonjour, c'est un message pour le repère de Ploubalet pour annoncer que celui-ci aura lieu le mardi 31 octobre à 20h, toujours chez Marie et Pierrot au Penalty. Les sujets qui ont été abordés la dernière fois, ça a beaucoup tourné autour des prochaines élections. Et le thème que nous avons décidé de débattre pour la prochaine fois, c'est dépasser le bipartisme. Quelle réforme à la représentation citoyenne? Voilà, donc si vous voulez un petit peu plus de renseignements, il est possible de me joindre au 02 96 86 93 04. Evelyne, je répondrai à vos questions. Au revoir, à bientôt.
Bonjour Daniel, c'est à nouveau Pierre de l'Ardèche pour vous signaler qu'au centre courrier d'Annonay, les grévistes de la faim sont un de plus. Ils sont 4 à ce jour. Merci.
Et toi, c'est quoi le nez que tu voudrais plus tard quand tu seras grande?
Je veux pas avoir le nez trop gros, trop maigre, trop patapouf. Quoi? J'ai envie d'avoir un nez comme mon enfance. Comme je le suis.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Sophie Simoneau. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Nif. Nif. C'est bon, Nif, non? Et Mémé, comment on dit
Comment?
Toi, tu le connais en arabe?
En arabe, je sais pas, ma puce.
Oh non, comment tu sais pas, ma puce? On l'appelle Nif.
Le nif, hein, le nif, c'est le nez, imbécile.
Oui, c'est ça.
À tes souhaits, 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 à tes souhaits.
Pif, Blair, Blaze, Naze, Truffe, Tarin, Tarbouif. Aquilin, épaté, cassé, en lame de couteau, en quart de brie, en trompette, en groin, en prise de courant, retroussé, qui pleut dedans, patate, roc, pique, cap. Péninsule, oblongue capsule, écritoire, boîte à ciseaux, perchoir, cheminée, porte-chapeau. Oui, aujourd'hui, alors que la France n'en peut plus de ne plus se sentir, aujourd'hui, tandis que la moutarde nous monte au nez contre ceux qui nous gouvernent au pif, sortez vos mouchoirs pour la célébration d'une protubérance. Hommage à une turgescence, à cette sentinelle érectile, ce sexe au milieu de la figure, et pas seulement celui des messieurs, si troublant pour les dames qu'on le voile en Orient. Une petite balade en forme de pied de nez. Une balade en équilibre sur la partie saillante, pyramidale et triangulaire qui participe à la physionomie du visage, jusqu'à se retrouver nez à nez avec le fin fond de l'humain. Le nez, c'est le nœud. Le nez, c'est le nom. Là-bas, si j'y suis, les doigts dans le nez.
À tes souhaits, 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 à tes souhaits.
Il est des nez de toutes sortes, des nez de toutes dimensions, et selon celui qui l'apporte, ou bien il a de l'intuition, ou bien il ne sert à rien d'autre qu'à se fourrer dans des mouchoirs. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'une autre, c'est un nez qui est fait pour tout voir. Ainsi le nez de la police, celui que l'on trouve partout, n'est pas un vulgaire appendice fait pour respirer par ses trous. Non, c'est le nez d'un chien de race, vigilant et fin limier, qui lorsqu'il s'en va à la chasse, arrive à trouver son gibier. Le nez radar de notre intelligence, ce gouvernail de nos intuitions, par les chemins de l'évidence, nous fait trouver des solutions. Le nez est vraiment la chose idéale que l'homme ait jamais portée, et gloire à nos fosses nasales, car nous ne serions rien sans nez. Né, 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 en remontant le cours des âges, on tombe toujours sur des nez qui nous rappellent des visages jusqu'au fond de l'Antiquité. Parlerait-on de Cléopâtre, que serait sans lui Cyrano? De l'histoire jusqu'au théâtre, le nez est un porte-flambeau. Le nez radar de notre intelligence, gouvernail de nos intuitions, par les chemins de l'évidence, nous fait trouver des solutions.
Alors à quoi ça sert un nez?
À respirer. Et puis peut-être aussi à sentir les plantes. On peut sentir n'importe quoi. Par exemple, si les chaussettes, elles sont sales, par exemple. On peut sentir. Et aussi dans les culottes.
Depuis l'année dernière, j'étais à l'hôpital et je sens plus rien ni je ne goûte plus rien.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah ben, il s'est passé que j'ai eu une phlébite et on m'a tellement piqué partout que... On m'a tellement fait des machins et des trucs que je goûte plus rien ni je ne sens plus rien. Mais ils m'ont sauvé quand même.
Est-ce que ça va aller le coup alors?
Ah oui, ça va aller le coup. Ah ben j'en ai 90 alors, vous voyez. Hein.
Ça vous arrive parfois d'être nostalgique de certaines odeurs ou de certains goûts quand même?
Faut pas y penser. Faut encore vivre quoi. C'est... Mais enfin, moi ça me ferait rien de m'en aller.
Ouais. Pied de nez, voilà ce que c'est, ça s'appelle un pied de nez, né de l'enfance, né perdu de la vieille dame qui ne sent plus rien. Dans notre monde où nous favorisons l'audio et le visuel, aurions-nous laissé tomber le nez? Évoqué, le nez, c'est sourire, le nez fait sourire. On va parler du nez aujourd'hui avec Sophie Simoneau. Pas tant de l'odorat que de la forme du nez. Alors évidemment, il y a tous ces aspects que le nez revêt, mais il y a aussi que le nez est creux. Et alors, pour passer de l'un à l'autre, du creux au plein du nez, il y a les trous de nez. Ça, c'est pas facile d'évoquer sans trivialité ces jumeaux orifices. Quel poète galant a réussi à chanter les trous de nez de sa bien-aimée avec ses petits poils et tout ce qu'il y a dedans. Répugnant, le nez vite répugnant et pourtant indispensable. Cette vieille dame à 90 ans dit il ne faut pas y penser. Et on verra, si on a le temps, plus tard, ce qu'est un homme sans nez, comme Gogol l'imagina dans une fameuse nouvelle. Et puis, il y a l'idée que le nez permet d'éternuer à vos souhaits. Et ça, c'est magique. N'oubliez pas d'avoir des souhaits. N'importe qui se transforme en bonne fée à l'occasion d'un éternuement. Alors, j'ai dit pied de nez. Et c'est vrai que le pied et le nez ne sont pas si loin. C'est bien connu, dès qu'on parle du nez, depuis toujours, dans toutes les cultures, on trouve des symboles, des mythologies, des analogies, des similitudes et des équivalences entre le sexe et le nez. Mais, attention, pas seulement le sexe du monsieur. Long, large, cambré, épaté, embusqué. Et pour ce qui me concerne, moi qui vous cause, ce truc qui en tout lieu d'un quart d'heure me précède. Non, non, pas seulement. Mais quelqu'un comme un auteur comme François Bernard Michel, qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle « Du nez », eh bien, il nous dit que le nez est le seul organe impair et médian, à la fois saillant et creux, masculin et féminin, pourvu, comme le sexe, d'une muqueuse dotée d'érection. Mais c'est pas tout. On va voir comment, à partir d'un nez, en examinant un nez, on peut prédire l'avenir et surtout deviner, sans connaître la personne, son identité.
Isa.
Oui.
Comme votre père.
Comme mon père.
Oui.
Comment vous savez ça?
Oui, parce que je vis votre nez.
J'ai un nez comme un monsieur.
Oui. Mais votre caractère, c'est les hommes.
Un caractère d'homme. Vous n'êtes pas une fille, mais un homme. Votre caractère ressemble à celui d'un homme.
Oui. Mais vous voyez tout ça à mon nez?
Si, si. Oui. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 3 frères. Vous, c'est troisième.
Moi, je suis la troisième dans la famille.
Voilà. C'est ça.
Bon. Bah, c'est vrai, oui.
Bon.
Mais à quoi vous voyez ça, monsieur?
Oui, parce que je vis votre nez. Je connais. Mais la racine du nez, il n'y a pas les...
C'est pas charnu. C'est-à-dire, elle est maigre, votre racine. On voit l'os. Alors, il devine que vous êtes en troisième position. Il voit, c'est une expérience. Il ne peut pas expliquer, voyez. C'est la façon comme on lit les lignes de la main. C'est la même chose.
Mais, monsieur, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, pour lire dans les nez comme ça?
Maintenant, je touche, c'est RMI.
RMI. Il ne travaille plus, il ne peut plus travailler. Il a plus de 60 ans déjà.
J'ai appris de Simoncien.
Chiromancien, non. Chiromancien.
Vous êtes un chiromancien.
Chiromancien, oui.
C'est-à-dire que vous lisez l'avenir des gens sur leur visage.
Oui.
Mais ça, c'est propre à vous ou c'est de ces Vietnamiens?
Ça, c'est son système à lui, ça.
Le nez, le Louis.
Le nez du monsieur qui est assis à côté. Vous avez un... Il a un gros nez.
C'est
ça?
Oui.
Voilà, il est long, oui. C'est 90 ans. C'est parti, là. Moi, c'est 100, 116 ans.
C'est 116 ans?
Oui, parce que les oreilles comme le Bouddha. Voilà.
Ah, vous avez les oreilles de Bouddha.
Et lui, c'est les oreilles comme le patron, un restaurant patron.
Voilà. Oui.
Patron de restaurant. Voilà.
J'aime pas chez les autres parce que c'est pas rebutant, dégoûtant et tout ça, mais c'est gênant. Parce que t'as envie de le dire, mais t'oses pas le dire.
Ça devient une obsession, tu vois. Quand tu parles à quelqu'un qui en a juste une... Le pire, c'est une toute petite petite, hein, pas méchante, crotte de nez. Et moi, je le dis. Je dis tout bêtement, j'ai trouvé la formule. Tu devrais te moucher. Et on comprend très vite, quoi. Les gens comprennent très vite. Pourtant, je ne peux pas sur le nez, mais c'est partie des détails qui peuvent presque te dégoûter de quelqu'un. Bon, évidemment, l'espace de 5 minutes après, le lendemain, t'as oublié ou un truc comme ça. Mais c'est un truc gênant de... T'as un petit peu pitié de l'autre, quoi. C'est le petit détail qui tue. Mais alors, qui tue?
Maman, mon nez, je le trouve bien. C'est-à-dire que j'ai le flair. C'est-à-dire que je suis un supporter de l'Olympique de Marseille. J'ai senti la finale de Munich. C'est-à-dire en 1993. C'est-à-dire que avec mon nez, je sentais la victoire de Marseille contre le Milan AC. Mais je sentais pas qu'est-ce qui arrivait après avec Bernard Tapie. J'ai pas senti le flair. J'ai pas eu le flair, mais. D'habitude, on dit Pinocchio, il a un grand nez, c'est parce qu'il ment. Ben moi, je sentais que j'avais un petit nez et qu'il grattait. Et puis j'ai dit, Basile Boli a marqué à la 43e minute. Et j'étais heureux et c'est arrivé.
Un petit coup dans le nez pour ce supporter qui évoque quand même le flair, c'est-à-dire le nez. C'est notre sujet aujourd'hui et c'est notre balade, le nez. Le nez trahi, le nez traduit, le nez sent et fait sentir beaucoup, presque tout sur chacun. Mais un nez peut-il dire un pays, être le symbole d'une nation? Pourrait-on imaginer un drapeau représentant un nez, un hymne national où vibrerait la cloison nasale du nez de la patrie? Songez que l'un des plus grands héros français de la fiction, mais devenu une réalité, c'est Cyrano, Cyrané de Bergerac. Qui est Cyrano? Un vieux type, brillant, frustré, donneur de leçons, cultivé, magnifique et perdant. Voilà le plus français des héros. C'est dans cette pièce que tout le monde déteste, sauf le public, selon René Clair, qu'on doit sans doute trouver quelque chose de spécifiquement français. Peut-être qu'avec Pinocchio et son nez qui pousse, on trouve un trait du caractère italien. C'est quand il voit la fée que son nez pousse, le Pinocchio, et la fée, on s'en apercevra... Et sa maman, faut vite faire venir le père Freud pour comprendre ça, la maman étant la mama, tout ça est bien compliqué. Ça dit quelque chose peut-être sur l'Italie. Peut-être que la belle Cléopâtre symbolise son peuple avec son nez que s'il eût été différent, la face du monde s'en serait trouvée changée. Mais Cyrano, increvable chef-d'œuvre, est sans doute la seule pièce de théâtre fierté française, cocorico, qui repose entièrement sur un nez. Dans Cyrano, le nez, c'est le nœud. Nez phallique, bien sûr, qui dépasse, embarrassant, gênant, pas correct, débordant du cadre, laid comme le désir, hideux comme la vie, impérieux comme elle, et toujours insuffisant, et toujours en forme de secrète défaite. Et c'est aussi une arme. Cyrano le dit quelque part, la pudeur vous défend de voir ma lame nue. Qu'en est-il dans les balades de Sophie?
Moi, j'ai jamais vu des nez qui poussent en tout cas, mais ma mamie, des fois, elle disait que j'avais le nez qui pousse. Et puis, c'était pas vrai, je sais que c'était pas vrai, parce que les nez, moi, je sais que ça pousse pas. Et puis, sauf le nez de Pinocchio, lui, il peut pousser. Sinon, moi, j'ai jamais vu un nez qui pousse.
Et est-ce que tu l'aimes, ton petit nez?
Oui. Je crois, quand ma maman, elle était petite, le nez, il lui ressemble. Et d'ailleurs, il sera comme maman, parce que mon nez, il était pareil quand elle était petite.
Et si t'as le nez de ton papa?
je m'en souviens plus comment il est de mon papa, parce qu'il habite dans une autre maison. Et quand j'étais un bébé, il mettait même pas le chauffage. Alors j'attrapais tout le temps une maladie. Et même maman. Non, je ne le veux pas, c'est pour ça. Je veux le nez de ma maman. Un jour, il a cassé le nez de ma maman parce que il jouait avec maman, mais il l'a pas fait exprès.
Et qu'est-ce que tu feras si t'amenais ton papa?
Je remplacerai par un autre. Je mettrai un déguisement de nez. Le nez de ma maman.
Non, j'aurais pas souhaité la ligne du nez de mon papa. Non. C'est pas de naissance, hein. De naissance, il était normal. Bon, comme j'ai essayé de le remettre aujourd'hui, justement, comme il était auparavant, c'est après mon accident, hein. Je voulais rentrer donc dans un pressing, hein, une laverie automatique. J'ai pas fait très attention. La porte vitrée était fermée. Et je courais. Et puis je suis rentrée dans la porte, en fait, bon, et le coup a porté sur le nez, et de là, bon, bah, toutes ces horreurs, quoi, cette grosse bosse, un nez complètement de travers, et puis une pointe tombante.
Avant, il était comment ?
Mignonnet.
Ah bon ?
Bah, vous voyez bien, hein, c'est un petit peu le profil de ce que j'ai aujourd'hui, maintenant. Puisqu'en fait, je suis partie... de mes photos de petite fille pour justement remettre mon nez comme il était auparavant. Et j'ai assumé mon problème toute seule. je me suis mariée très tôt, déjà d'une part, je me suis mariée à 16 ans. Bon, j'étais déjà partie parce que bon, j'en avais marre. D'ailleurs, mes parents ne savent même pas que je me suis fait opérer. Non, ils ne l'ont pas vu. Non. Et c'est vrai que quand on en parle, quelque part, il y a une blessure qui est toujours là. Et que, bon, j'en parle librement. Je ne suis pas gênée d'en parler. Je n'ai pas honte. Mais il y a une blessure en moi. Elle va se dissiper. Mais il y a une blessure quelque part.
À vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, à vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, c'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore, c'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore. À vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, à vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, c'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore. C'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore. À vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, à vous les jeunes filles, si le nez vous gratte, c'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore. C'est un vieux qui vous aime, un jeune qui vous adore.
Il paraît que c'est un dit-on dans certaines régions de France que si effectivement une jeune fille ressent un grattement, un chatouillement du nez, alors voilà, c'est signe qu'un jeune homme l'adore ou qu'un vieux l'aime. Blase, on dit. Blase. Blase, c'est comme Blase. Blase, le nom, c'est le Blase. Et le Blase, c'est le blaire, le nez. Blase et Blase. Blase, c'est blason. C'est bien ça. On peut tout dire avec un nez. Le nez, c'est le nom. Et en parlant de son nez, on parle de son nom, on parle de soi. Et on le modifie. Et c'est extraordinaire. Je disais, bien sûr, et tout le monde, tout de suite, l'image qui vient, c'est celle du rapprochement avec le sexe. Évidemment, entre le sexe et le nez. Et dans la mythologie grecque, on voit ces histoires, le volume du nez est lié à la puissance virile. Je ne sais plus quel auteur raconte comment, pour le prince, pour ses infâmes débauches, choisissait des jeunes gens bien montés du nez. Mais du côté des dames, le code pénal des pharaons condamnait les femmes adultères à l'amputation du nez. Eh ouais, si elles vous trompent, tac, on lui coupe le nez. Et dans la Chine impériale, tout comme, dit-on dans la Perse, le mari trompé arrachait à coups de dents le nez de l'offenseur. Et là, évidemment, retrouve la castration. Et c'est peut-être là l'origine de l'expression « se bouffer le nez ». En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces outrages et ces punitions nasales pour adultère, mais aussi pour vol, mais aussi pour crime, auraient été à l'origine de la greffe d'organes. C'est-à-dire qu'on aurait inventé la greffe d'organes à cause de ces destructions ou de ces arrachages de nez. Et on fait remonter la greffe d'organes, la première greffe, au 8e siècle avant notre ère. Elle aurait été pratiquée par un chirurgien, donc, de l'Inde, qui habitait en Inde et qui s'appelait Susruta. En partant d'une toute petite chose qui nous a semblé un truc comme ça, tiens, c'est marrant d'aller demander aux gens comment vous vous trouvez, comment vous trouvez votre nez. On pensait pas découvrir des choses pareilles, ni des mots pareils.
Je suis métisse, donc c'est déjà un nez métissé, donc il emprunte à deux types de entre guillemets, de beauté, parce que je me considère pas comme beau, mais Mon père est antillais, donc il y a les racines africaines, la négritude. Et puis ma mère est allemande, donc bon, c'est complètement... C'est un nez de shaker. on a mélangé deux racines. Et quand j'étais petit, on aurait dit vraiment un petit français, tout mignon, petit enfant qu'on trouvait très beau et tout, le petit prince un peu. Mais je sais que j'ai des idées bizarres. J'ai été chez le pharmacien, j'ai pris une crème amaigrissante, puis pendant 2 mois, j'ai massé mon nez avec. Je sais que c'est un peu fou, c'est la première fois que je le dis en fait. Je l'ai jamais dit. Ça me revient là, à l'esprit. Puis bon, j'ai trouvé ça complètement con. Donc ça coûtait cher en plus. Donc j'ai laissé tomber. Puis arrivé à 20 ans, c'est... Déjà, c'était pas viril. Donc c'était... On se dit toujours que c'est les nanas qui s'intéressent à leur nez, à leur visage. Donc un mec, ça passe, se poser des questions sur son visage. Bon, mon père est quand même d'origine antillaise, donc peut-être qu'il aurait mal compris aussi mes scrupules. Il aurait cru que c'était par rapport à un rejet de la négritude, une partie de ma négritude. C'était assez étrange, en fait. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je pesais, donc... pas tout le monde, mais à quelques personnes. Puis voilà. Donc on prend de l'assurance. Mais c'est vrai que je suis content, parce que ça me donne une assise, une solidité. C'est vrai qu'on associe toujours l'homosexualité à une certaine faiblesse, et physique, et morale. Et là, ça me donne... On va pas se demander si je suis homo, on verra mon nez peut-être, effectivement, on verra quelque chose de fort, de grossier, entre guillemets, de brut, comme du béton, comme, je sais pas, comme de la pierre, mais une pierre, pas du marbre rose, du beau granit, enfin du granit, la menhir quoi en fait, le menhir, je crois que c'est cette idée tellurique du nez quoi, puis voilà. Ça se voit pas du tout comme un nez en plein milieu d'une figure, on pourrait inverser le proverbe. Mais bon, c'est bien aussi. Ça fait partie du mystère des choses. C'est très bien.
J'étais longtemps complexée parce que je trouvais qu'il ressemblait à un groin. Et j'ai un petit peu épaté sur le bout, avec un petit peu comme des fesses, une petite fossette au milieu, au bout. Ce qui est un petit peu comme ça, un truc bizarre. Et c'est surtout mon nez qui épaississait. Donc vraiment, là, plus que maintenant, j'avais un nez en patate, quoi. Oui, puis alors mon grand-père, il était russe, parce qu'il est mort. Et il a perdu, enfin disons qu'en fait, il a commencé à geler du bout du nez. Et il a failli le perdre, mais il ne l'a pas perdu. Et dès qu'il faisait un tout petit peu, un changement de température, il avait le bout du nez qui rougissait. Et on l'a pris pour un alcoolique. Et il est mort en plus d'une cirrhose, mais pas du tout à cause du vin, à cause ou de la vodka, mais à cause du fait qu'il était chimiste et qu'il se servait de produits chimiques nocifs. Et les médecins ont, en fait, à cause de son nez, on déduit que en fait c'était à cause de l'alcool, mauvais diagnostic. Donc, en tout cas, moi, mon souvenir de lui, un peu terni, parce que maintenant cette histoire. J'ai l'image de mon grand-père avec un nez rouge. Son nez un peu épaté, rouge au milieu, je trouve que ça gâche. Ça gâche, ça, c'est plus la figure du prince Igor ou de Ivan le Terrible, quoi. Ça devient tout d'un coup le pochetron russe qui se bourre à la vodka, quoi. C'est une autre image, quoi.
Enfin voilà, et donc j'imagine sur son lit de mort avec son nez rouge. Je trouve que c'est pas super jolie image.
Ça réveille. Là. Voyons si ce petit bouton que j'avais hier sur le nez n'aurait pas eu l'audace d'augmenter de volume pendant la nuit. Voyons cela. Tiens, c'est curieux. Je n'aperçois plus le bouton. Où peut-il bien être? Ah, mais par exemple, je ne vois plus mon nez non plus. Le miroir est pourtant propre. Mais j'aperçois mes yeux, mon menton, mes cheveux, mais je ne vois plus mon nez. J'avais pourtant un nez. Alors, c'est ridicule. Je suis mal réveillé. Un peu d'eau. Oh, qu'elle est froide. Là. Eh bien, si avec ça, je ne vois pas tout à fait clair. Mais non. Toujours pas de nez. C'est affreux. Je n'ai plus de nez du tout. C'est tout lisse quand je touche. Poil horreur. S'il y avait au moins quelque chose à la place du nez, mais non, rien, une surface lisse. Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi, mon nez, dont j'étais si fier?
Eh oui, Gogol, le nez, nez en moins, ça pourrait s'appeler. Imaginez, imaginez sans nez, que deviendrions-nous, que serions-nous sans nez, ce nez qui fait sourire. Le nez, c'est le nez rouge, c'est le nez du clown, c'est ce tarbouif, ce tarin qui pendouille là, qui est pas... c'est moins beau que les yeux, on dit... T'as de beaux yeux, tu sais, m'en dis pas, t'as un beau blaire. Ça se fait pas, c'est comme ça, c'est ainsi. Et c'est ça qui nous a donné envie de nous balader, nez en l'air, à demander comment vous trouvez votre nez. Et il semble bien que ça se décline, le nez, selon, comme on dit, les cultures.
قلت لك كيفاش لقيت الانف نتاع الخشم توا تنجم تفهمها الخشم كمل كلمه سان سحب كلمه ولا سي تو
كوم المسيو اي تروف سون ني تري بو اي بو ريسبيري افيك اي بو اوسي افوار لا فيرتي اي شاكان parmi nous tout vivant sur terre il a son nez c'est-à-dire il a son nif. Moi, par exemple, s'il me propose le lendemain devenir français, j'ai ma fierté, j'ai mon nez, je dis non, je n'accepte pas. Ah ouais? Je garde, je dis non. J'ai déjà dit non. Ouais. C'est-à-dire, c'est ma fierté, c'est mon nez à moi.
Comment on dit alors le nez? Dans votre langue?
Ben, la Côte d'Ivoire, il y a 60 langues là-bas. Alors, dites-moi dans ma langue, peut-être. Moi, je suis Dida. Le Dida, le nez, on dit mle.
Mle, Dida, tout.
Peut-être c'est comme ça. Mle, c'est pareil. Donc, c'est mle. Ben oui, c'est mle. On a un mle, mokabe. Ça veut dire, elle met son nez partout. Non, mle, le nez, ça veut dire, je suis fière de mon nez. Parce que nos nez sont différents des Français, donc nous, on s'imagine peut-être que leur nez est plus beau, mais eux-mêmes, eux qui ont ça, peut-être qu'ils se sentent autrement.
Quand je regarde mon nez, je l'apprécie par rapport à d'autres femmes africaines. Mais par rapport au blanc, je ne peux pas dire que j'ai un très joli nez par rapport au blanc. Voilà, parce que les blancs, ce que je remarque en général, ils ont un nez bien fin et droit. Voilà, pas très gros, pas très gros, voilà.
Et ça vous plaît?
Et moi, mon nez, il me plaît. Il me plaît par rapport à mon race, voilà. Mm-hmm. Par rapport à ma couleur de race.
L'ancien de Pitou.
Ouais, bon, en plus, ma mère, elle a le nez français, bien droit. Tout le monde trouve que c'est joli. Mais justement parce qu'elle est métissée. C'est le nez de son père qu'elle a. Sa mère a triché, donc elle a un nez comme ça. Parce qu'on a toujours dit que le nez français est toujours le plus beau, quoi. Tout le monde? Tout le monde le dit.
Bah, les gens, bah, chez nous les Africains, bon. Bah, les Français, c'est grand. Donc, quand on parle de nez français, voilà. On n'a pas le même niveau de vie. Donc, un Français par rapport à un Africain, c'est toujours le supérieur. Et là-bas, avec le nez aussi, bien relevé, tout ça qui attire le regard parce que c'est relevé. Bon, voilà.
À tes souhaits, 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 à tes.
Alors, voilà comment ça... Dire que c'est les Blancs qui ont toujours les plus beaux nez supérieurs, c'est pas vrai. En Asie, dans certains pays, en Thaïlande, par exemple, Farang, c'est pas un compliment du tout. Être un long nez, c'est pas un compliment du tout. C'est très drôle de voir comment chacun s'aime ou se déteste avec son propre nez vu comme une identité. Et je vais vous raconter pourquoi on a fait ce reportage, cette idée de... C'est que Sophie, qui a fait le reportage, a un papa qui a un gros tarin, un gros nez. Et alors, ça a inquiété beaucoup la famille. Et quand les enfants sont nés, eh bien la famille a fait des économies. On a mis de l'argent de côté, on a ouvert un compte dans le cas où, en grandissant, si les enfants avaient un gros tarin comme le papa, ils puissent se faire opérer. C'est une histoire absolument vraie qu'elle nous a racontée. Et alors, il se trouve, par ailleurs, ou lié à ça, que le papa et la maman et les enfants de la famille, toute cette famille, sont juifs. Et il se trouve que le papa a changé de nom. Changé de nom, changé de nez, l'histoire du nez serait-elle aussi ou entre autres une histoire juive. Sophie est allée demander d'aller voir le docteur Cohen qui est ORL.
L'idée dans ma médecine hein, de refaire un nez de quelqu'un, c'est presque une aversion. Hein. Ça m'embête. Alors que je suis ORL et que je pourrais tout à fait, que j'ai des amis qui refont des nez souvent, en plus que ça... Ça rapporte, comme on dit, c'est une chirurgie qui peut être lucrative, mais pas du tout, ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi je voulais... C'est drôle, par exemple. En fait, je crois que je dois dénier, parce que je m'appelle Cohen. Et j'ai jamais voulu penser que c'était un nom typiquement juif, alors que vraiment, il n'y a pas plus. Et il a fallu que je m'installe à mon cabinet pour apprendre de tous mes patients, mais tous, hein, juifs et non-juifs, et de loin les non-juifs, que tout le monde savait que j'étais juif et qu'ils savaient qu'ils venaient voir un juif à partir du moment où ils avaient téléphoné à Cohen. Et moi, ça m'a vachement surpris. Ça m'a surpris que les gens le sachent. Et quand j'ai commencé à interroger les gens, on m'a dit, bah oui, c'est une évidence. Comme si je m'étais pas fait à cette idée-là, que je l'étais de toute façon pour les autres, et donc de toute façon en soi, et... On dirait que j'ai grandi en pensant que je m'appelais d'un nom beaucoup plus, beaucoup moins clair. C'est-à-dire que, et donc, le caractère juif ne ressortant pas de mon nez, à mon avis, c'est quelque chose qui me rassure. C'est vrai que, moi, j'aime bien qu'il soit fin. Petit, entre pas petit mais pas grand en tous les cas, et qui passe inaperçu en fait. Comme si c'était un problème à régler, comme si c'était que ça se voit pas quoi, qu'on en parle pas en fait, qu'on voit pas. C'est drôle. Ça c'est déjà l'essentiel. Mais c'est vrai que quand je suis frappé quand je vois mes photos d'enfance, vraiment un tout petit nez. Ça je suis assez frappé. Mais bon. C'est vrai que. Ça m'a fait penser à une scène de mon enfance où j'ai pris un bain avec mon père et que j'ai trouvé qu'il avait un zizi énorme. Je le trouvais énorme et bien impressionnant. Et que ça a été l'obsession de ma mère, que j'ai un petit zizi et qu'elle m'a amené plein de fois chez le docteur parce qu'elle était sûre qu'il allait jamais grandir ou je sais pas quoi. Et donc j'ai fait des rêves d'ailleurs d'énormes zizi parce qu'on me donnait des médicaments pour qu'il grandisse. Et pour le nez, je l'ai ressenti comme ça quand j'ai vu mon nez grandir à l'adolescence. Je me suis dit, au moins on verra pas que je suis petit à l'intérieur. En tous les cas, elle m'a jamais dit que c'était bien que j'ai grandi ou que je grandisse. Du nez ou d'autre chose, mais jamais. J'ai l'impression qu'elle regrettait ce beau petit nez. Et qu'elle a dit après, maintenant vous me faites penser, que j'étais pas comme ça avant.
Mon père, quand j'étais petite, pour m'embêter, il me léchait le nez. Mais il appelait ça un léchon, il me léchait le nez et je supporte pas, j'allais me le laver après. De sentir, je sais pas, je déteste ça. J'ai l'impression que je suis mouillée de partout, je sais pas, j'aime pas. Mais en plus, le pire, c'est que j'aime bien embrasser le nez des autres. Ce que je fais souvent. Ils vont pas le faire sur moi. Non, ouais, j'aime bien tous les nez, moi. Et je l'embrasse souvent d'ailleurs, son nez. J'aime bien. À mon copain. Mais en plus, il a des tics avec son nez. Et des tics que j'adore. D'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'a... Le pire, c'est que je crois que c'est ça qui m'a séduit chez lui. Je l'ai jamais dit parce que, bon... Il a des tics, c'est-à-dire qu'il touche vachement souvent son nez. Ça me fait... Je sais pas, il a une façon de... Ça lui donne un côté, genre... déterminé, je sais pas. Quand il... Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il le touche. Et ça donne un côté, en même temps, genre... C'est des moments où il y a des moments de réflexion. Avant d'agir, et je trouve ça très excitant. Non, c'est vrai, c'est les moments où il réfléchit, ou avant de parler, ou des moments de pause. Et c'est vachement... C'est viril, on peut dire.
Mais j'y vais pas tellement. Non, parce qu'il y avait une bosse, là, ici. Et puis, à mon travail, lorsqu'on me regardait, j'avais toujours l'impression qu'on me regardait toujours de haut. Et justement, avec cette bosse, j'avais l'impression un peu de loucher. J'avais un œil qui fixait toujours la bosse, et j'avais toujours un œil qui louchait, quoi. Donc, ça me posait pas mal de problèmes, quoi.
Et cette bosse, alors, cette fameuse bosse,
ouais.
Vous l'avez toujours eue?
Non.
Petite.
Non. Non, elle était infine, et puis bon, je pense qu'elle est apparue en vieillissant, sûrement suite à un choc, hein, que j'ai eu entre-temps, mais je l'ai pas toujours eue. Non. Moi, je me rappelle depuis l'âge de 18 ans. Avant, je me rappelle pas avoir eu cette bosse, ou alors j'y prêtais pas attention. Quand je m'en suis aperçu, c'était à l'armée, et je pense qu'on m'a fait remarquer à l'armée. Au bout de 2 mois, j'ai commencé à faire une dépression nerveuse, quoi. J'en avais assez, quoi. Et j'ai été incorporé après pendant 2 semaines à l'hôpital Bégin, en psychiatrie, justement, à cause de ça, à cause des critiques. Et pendant 2 semaines, j'ai été drogué. Et c'est là qu'on m'a dit que j'avais un problème de respiration. Et là, on m'a prié de retourner chez moi. Et la première chose que j'ai fait, c'est retrouver du travail. Et j'ai économisé toutes mes payes, quoi. Et la seule chose qui comptait pour moi, c'était de me faire opérer. Et de dire, bon, ben, je suis tranquille, il n'y aura plus ce problème. Et là, actuellement, ben, je me suis fait opérer. Parce que là, actuellement, au boulot, c'était pareil. C'était toujours des critiques, bon, minimes. Mais c'était toujours des critiques.
Qu'est-ce qu'on critique chez toi?
C'est toujours le nez. Toujours, sans arrêt. C'est pousse-toi, gros nez. Ou alors, pareil, c'est sans arrêt des vannes, mais bon, c'est insoutenable, quoi. C'est à la limite de l'impossible. On se dit, mais bon, où je suis, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Pourquoi? On sait pas. Plus je me pose des questions, plus j'ai envie de changer. Carrément, même des fois de métier, de tout, mais même de pays. Mais je crois que c'est dans ma nature.
Qu'est-ce que tu fais comme métier?
Je suis enquêteur qualité. Et ça me plaît comme métier, mais je pense que je suis pas compris dans ce que je fais. Je pense que les gens essayent pas de me comprendre et je sais pas, je pensais pas que c'était comme ça, quoi. Je pensais qu'entre les gens, il y avait plus de liens amicaux. Et je trouve qu'il y en a pas assez. Donc, il y a beaucoup de choses qui si je devais les revoir, je changerais beaucoup de choses, quoi. Je changerais pas que mon nez non plus. Il y a tout un entourage que je changerais. Il y a beaucoup de choses que je regrette.
Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans, justement, ton comportement, les choses que t'as pu louper?
Peut-être le décès de mon frère, quoi. J'aurais peut-être pu, le soir de son accident, l'empêcher. Il était venu me voir, et je lui ai dit que j'avais pas le temps, quoi. Donc, j'aurais pris peut-être le temps de parler. Peut-être que j'aurais le temps de... Peut-être que dans le temps qui était fait à un axe de temps précis quoi, pour l'accident, peut-être que cet axe de temps aurait été changé. Et peut-être que l'accident ne serait pas produit. Il y a plein de choses que je voudrais faire. Et en fait, je suis tellement bileux que j'ai tellement peur de commencer à faire quelque chose que je me dis, oh, peut-être bien, ben non, je le fais pas tout compte fait, quoi. Faut pas que je le fasse parce que si je me plante, c'est fini. Donc, en fait, c'est cette peur qui m'empêche de faire plein de choses, quoi. Et arrive à un moment, ben, je me dis, non, fais-le pas, et je le fais pas, quoi. Et après, je regrette. Donc, j'ai mis tout mon objectif sur le nez, peut-être bien. Donc, je me suis dit, si mon nez est mieux, ben, ma vie sera mieux, même si c'est pas vrai. Mais bon, ça me donne toujours espoir. Mais bon, j'arrive pas à l'expliquer parce que j'ai toujours cette boule là qui m'empêche de parler.
Quand tu parles de ça.
Ouais.
Et tu crois que ça va partir?
Je sais pas. Je pense pas maintenant en tout cas. Peut-être avec les années ou avec d'autres événements. On verra bien. Et je sais que ce qui me plairait, c'est... Moi, c'est pas possible, mais... Je voudrais pas qu'il soit mort pour rien, qu'en fait. J'ai toujours... je me suis toujours dit, pour qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse voir que... qu'on ne l'oubliera pas, quoi. Mais j'y arrive pas. Parce que, bon... J'y arrive pas, je sais pas. Je voudrais faire quelque chose de... qui disent bah tiens t'es pas mort pour rien quoi, mais je suis peut-être trop trouillard pour le faire, donc là j'ai visé sur le nez et puis bah si ça marche pas je viserai autre chose quoi, puis j'espère y arriver.
Après avoir modelé l'homme avec de la glaise à son image, Yahweh lui insuffla aux narines le souffle de vie, si bien que l'homme devint un être vivant, pourvu du moyen de se mettre au parfum.
Un nez banal, c'est un nez qui ne se remarque pas. Un nez parfait, souvent, ça se remarque. Peut-être parce que c'est justement assez rare, en fait. C'est rare de voir quelqu'un qui a un nez tout à fait droit, tout à fait régulier, sans défaut, sans aspérité. C'est suffisamment rare pour qu'on le remarque. Je crois que ce qui compte le plus pour moi, c'est les yeux. C'est un peu dommage que j'ai eu à passer 6 fois sur la table d'opération avant de me rendre compte de ça.
Vous avez des cicatrices ?
Oui, j'ai des cicatrices qui datent de la première opération.
Elles sont situées où ? C'est une question à laquelle vous ne voulez pas répondre.
Non. Non, je préfère ne pas en parler.
Pourquoi ?
C'est une trahison. Oui, il en dit trop.
Qu'est-ce que ça dit que vous ne voulez pas dire ?
J'irai peut-être un peu loin si je dis que mon nez dit que la vie est belle, mais pourtant c'est un peu ça. Oui, la vie est belle. Et si on s'aime bien, la vie est belle. C'est quand on subit des traumatismes, quels qu'ils soient, quand on sait s'en relever, quand on arrive à s'en relever. Alors la vie est belle.
C'était un reportage de Sophie Simoneau. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet et Eric Morin. Réalisation Antoine Chouquet. Antoine Chao, Yann Chouquet et Koy Nguyen, assistés de Pascal Pascariello, chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Le fax, 01 56 40 41 07. Ou l'email, daniel.mermet@radiofrance.com. Vous pouvez réécouter et télécharger l'émission du jour sur franceinter.com, rubrique émission, là-bas si j'y suis.